Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, et particulièrement à celles et ceux qui se lèvent alors qu'il fait encore nuit pour commencer leur journée. Le réveil culturel avec Vincent Abouchard à la réalisation, Corinne Amar à la coordination, et ce matin, Marie Le Peintre à la prise de son. C'est tous les jours à 6h du matin, le réveil culturel sur les ondes de France Culture, mais c'est aussi quand vous voulez, en passant par l'écoute en ligne ou le podcast. Une semaine après le passage à l'heure d'hiver, on est tous prêts, on entre enfin dans la bonne saison pour célébrer la nuit. Au centre Pompidou-Metz, en ce moment, on peut voir une exposition autour du thème de la nuit dans la peinture moderne et contemporaine. Et ce petit voyage nocturne de la fin du 19e jusqu'à nos jours, on le refait dans le réveil culturel en compagnie de Jean-Marie Gallet, le commissaire de l'exposition.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
Bonjour Jean-Marie Gallet.
Bonjour.
Peindre la nuit, alors l'intitulé est très bien trouvé, hein, parce qu'on se pose la question, ça veut dire quoi peindre la nuit? C'est-à-dire peindre, représenter la nuit ou peindre pendant la nuit? Si vous ne répondez pas à cette question, c'est parce que vous mêlez effectivement les deux visions qu'ont eues les artistes. Hein, c'est-à-dire, c'est quoi peindre pendant la nuit? Quel sentiment, quelle sensation la nuit procure aux artistes? Et puis aussi, comment représenter la nuit?
Absolument. Peindre la nuit, c'est la beauté de la langue française, cette double lecture. Peindre la nuit, peindre pendant la nuit, et puis aussi représenter la nuit. Et le fait de choisir ce titre ambivalent, la nuit est ambivalente par beaucoup d'aspects, et le fait de choisir ce titre ambivalent, c'était justement parler de la nuit comme une temporalité, mais aussi une sorte d'éléments, de matériaux, de substances que le peintre va vouloir capter sur sa toile.
Et ça console, hein, bien sûr. Quand on passe à l'heure d'hiver, généralement, on se dit, oula, ça veut dire que c'est l'hiver, ça veut dire que c'est les nuits interminable, et vous nous invitez à travers cette exposition au contraire à faire un voyage dans la nuit, parce que l'exposition se présente comme ça. Hein.
Absolument, c'est un voyage et c'est l'idée que la tombée de la nuit est le commencement de quelque chose, le départ de quelque chose et non la fin d'une journée, la fin du travail, le moment où on rentre chez soi et puis on se met dans le lit. Là au contraire, justement, c'est la nuit des veilleurs. C'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on choisit de ne pas dormir de cette nuit?
Ça, c'est le cahier des charges de Pompidou-Metz. Ça reste quand même la peinture contemporaine, moderne. On démarre à la fin du 19e siècle et on arrive à nos jours avec différentes représentations. Et là où l'exposition gagne en intensité, c'est que vous mettez en parallèle tout ce qui a changé durant ce siècle écoulé, le 20e siècle. Il y a eu bien sûr trois grandes révolutions. La révolution de l'électricité et de l'éclairage. Et là, effectivement, ça change beaucoup sur la nuit. Il y a d'autres révolutions qui ont marqué ce 20e siècle, c'est-à-dire le développement de la psychanalyse, donc des rêves. Et là aussi, la nuit est convoquée. Et puis enfin, bien sûr, la troisième révolution est liée à la conquête spatiale. Et là aussi, on est plongé dans la nuit, on est aspiré par la nuit à travers les représentations de ces navettes qui vont faire le tour du lointain dans le ciel noir parsemé d'étoiles.
Absolument, et ces trois grandes évolutions ou révolutions dans la manière d'envisager la nuit au XXe siècle, que sont, comme vous l'avez rappelé, l'éclairage, la profusion de l'éclairage dans les premières décennies du XXe, c'est évidemment une invention du XIXe, mais c'est dans les années 10 que les néons apparaissent, et ces lieux de surenchère lumineuse que sont Broadway, par exemple, apparaissent vraiment dans ces premières décennies du XXe siècle. La deuxième, c'est, oui, cette exploration de la nuit intérieure, ce monde de cette porte ouverte sur les rêves qu'est la nuit, tout d'un coup prend un nouveau sens avec la psychanalyse. Et puis enfin, toutes les découvertes, non seulement la conquête spatiale, on envoie des hommes dans cette nuit, mais aussi on récupère des images de cette nuit, ces découvertes de l'astrophysique moderne. Elles sont en fait à relier à trois types de sensations, trois types de vertiges. Et ce voyage dans la nuit, cette plongée dans la nuit, elle nous fait nous abandonner à ces vertiges. Le premier est un vertige des sens, que crée l'éclairage ou le manque d'éclairage ou l'aspect très contrasté des visages, par exemple, croisés dans une rue en 1910 à Paris. Et puis, ce vertige ensuite devient un vertige plus intérieur. Et là, on va croiser la psychanalyse, on va croiser les rêves, et c'est évidemment ce domaine du vertige intérieur, c'est celui du surréalisme. Et enfin, le troisième vertige est un vertige cosmique, qui convoque la conquête spatiale, qui convoque toutes les grandes découvertes par rapport à l'astrophysique, oui.
Alors Jean-Marie Gallet, ce genre d'exposition, c'est-à-dire des expositions avec un thème et des variations autour de ce même thème, comment on la conçoit, cette exposition? Est-ce qu'on part à partir du fond du musée, là en l'occurrence Pompidou-Metz, ou est-ce qu'on ne s'interdit rien? Et on essaye de ramener des pièces qui se trouvent à l'autre bout du monde pour asseoir ce qu'on a envie de montrer, l'association qu'on a envie de partager.
Alors c'est un mélange. Le Centre Pompidou-Metz n'a pas de collection, c'est sa particularité. C'est un centre d'art plus qu'un musée. Il ne conserve pas d'œuvres, il fait venir des œuvres et notamment en priorité des œuvres de la collection de son grand frère, le Centre Pompidou à Paris. Donc effectivement, une des bases de l'exposition, ce sont des œuvres majeures du Centre Pompidou à Paris. Je pense à un tableau magistral de Picasso, par exemple, qui a été surnommé, disons, par Picasso, le Nu étoilé et non la Nuit étoilée. Le Nu étoilé, c'est un portrait de Dora Maar que Picasso vient de rencontrer à l'été 1936 et il la représente en extase. Son corps flotte dans le ciel et semble toucher les étoiles. Avec sa main, elle attrape la lune, elle attrape deux ou trois étoiles et elle semble les relier par un fil. Il y a plusieurs chefs-d'œuvre qui sont prêtés par le Centre Pompidou. Ensuite, c'est une exposition qui est construite comme cette traversée, cette plongée, ce voyage dans la nuit. C'est une exposition pour laquelle j'ai essayé de montrer aussi des choses moins connues de certains artistes. C'est-à-dire que oui, il y a Magritte dans l'exposition. Oui, il y a des grands noms comme Mondrian dans l'exposition. Mais ce sont pas forcément les tableaux qu'on attend de ces peintres-là. C'est des tableaux soit de jeunesse, soit des tableaux plus intérieurs, plus intimes. Parce que la nuit, c'est aussi ça. Elle fait ressortir quelque chose de très profond, de très enfoui. C'est quelque chose de très intime. Et d'ailleurs, le sous-titre d'une grande partie de l'exposition, c'est « De l'intime au cosmos ». Peindre la nuit de l'intime au cosmos. Cosmos.
Alors, s'il fallait parler du cheminement, parce que il y a vraiment une scénographie avec un début et une fin autour de cette exposition Peindre la nuit au Centre Pompidou-Metz.
Absolument. Quand on entre, on est plongé dans le noir par un sas d'obscurité qui est illuminé de quelques points dans la nuit, des points mouvants dans la nuit. C'est une vidéo d'une jeune artiste française qui s'appelle Jennifer Doosnell. Et Jennifer Doosnell a filmé comme un peintre aurait fait une peinture. Elle a filmé en plan fixe un sanctuaire de lucioles en Malaisie. Et ces animaux infiniment petits nous évoquent tout d'un coup l'infiniment grand, la perte dans une carte du ciel en mouvement permanent. Et puis on s'enfonce dans l'exposition comme on s'enfonce dans la nuit. On rencontre d'abord ce vertige des sens avec des tableaux de la fin du 19e siècle, ce trouble dû à l'absence de lumière et à ces nouvelles lumières à l'horizon, avec par exemple un tableau du musée d'Orsay, un prêt du musée d'Orsay, un tableau d'un Américain qui s'appelle Winslow Homer. Les Américains sont les grands maîtres de ce genre en peinture qu'on va appeler le nocturne, d'après Chopin, avec notamment deux personnalités, Whistler et Homer. Et dans ce tableau d'Homère qui s'appelle Nuit d'été, qui est peint en 1890, on est nous-mêmes pris du vertige de la nuit. C'est comme si le peintre avait moins voulu représenter une scène anecdotique, mais plutôt les effets d'une sensation d'être face à la nuit, d'être dans la nuit. C'est un tableau aussi très théâtral qui nous montre, qui affirme que la peinture est avant tout une mise en scène, et ça c'est renforcé, c'est dramatisé par la nuit, puisqu'on voit deux danseuses sur des planches en bois.
Ouais, très beau tableau à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission du jour du réveil culturel. Il date de quand d'ailleurs ce tableau ?
C'est un tableau de 1890 et que la France va acheter à l'Expo Universelle de 1900. C'est un des rares tableaux américains achetés par l'État français et le seul tableau de ce peintre dans les collections d'ailleurs en France.
On l'a dit au début de cet entretien, Jean-Marie Gallet, la révolution liée à l'apparition de l'électricité et surtout de l'éclairage va effectivement changer la donne de la nuit ou de comment on peut représenter la nuit. Et en déambulant dans cette exposition, Peindre la nuit, je me suis demandé si on pouvait dire à partir de ce que vous nous proposez, de ce parcours atypique, est-ce qu'on pourrait jusqu'à aller dire que le romantisme s'arrête avec l'apparition de l'éclairage ?
C'est une bonne question. Le romantisme, effectivement, prend un coup avec l'apparition de l'éclairage. Pour certains artistes, c'est vraiment la disparition de la nuit. Et il y a d'ailleurs comme une opposition des générations. Il y a des artistes comme Cézanne, par exemple Paul Cézanne, qui écrit en 1902 dans une lettre que les nouvelles lumières du sud de la France, je ne sais plus quelle ville il cite, mais peut-être il parle d'Aix. En tout cas, il dit que ce nouvel éclairage gâte le crépuscule et pour lui, il est impossible de peindre ce sujet. Tandis que, à peine quelques années plus tard, on a des peintres comme Fernand Léger, comme Robert Delaunay, les futuristes aussi, qui vont exalter ces nouvelles lumières, qui vont au contraire y voir le maquillage pour la ville qui est la muse absolue, cette ville moderne, cette ville agitée, avec des nouvelles manières de peindre, des nouvelles manières aussi de le film, la photographie vont aussi s'emparer de ces sujets.
Le réveil culturel. Mardi, Expo.
C'est la nuit. Reste encore quelques heures si tu veux. C'est la nuit. Laisse filer entre mes doigts tes cheveux. C'est la nuit.
C'était l'année dernière, non, en 2016 déjà, c'est la nuit, et c'est la nuit qui nous tend les bras aussi au musée Pompidou-Metz en ce moment. Pour nous en parler, le commissaire de l'exposition, Jean-Marie Gallet. S'il fallait parler maintenant des œuvres exposées, Jean-Marie Gallet, on va commencer par une image, d'un ancien temps, un couple qui s'enlace au bord de la mer. C'est la nuit, Et apparemment, c'est pas encore la nuit éclairée par la révolution de l'électricité.
Non, c'est une nuit mystérieuse, une nuit vertigineuse que nous peint Winslow Homer, un peintre américain, en 1890 avec ce tableau qui s'appelle « Nuit d'été ». Dans ce tableau, on voit deux femmes qui dansent sur une scène en bois au bord de la mer. L'océan est très agité dans le fond et l'écume capte la luminosité. En fait, c'est un tableau qui, pour un nocturne, est très lumineux. Et quand on est devant ce tableau, on est pris d'une sorte, nous aussi, de vertige, comme si on était un peu perdu dans la nuit. Et à quoi c'est dû? Si on l'observe un peu plus, on se rend compte qu'il y a un énorme reflet gigantesque en plein milieu du tableau sur la surface de l'océan. C'est donc qu'il y a sans doute une pleine lune, mais que le peintre n'a pas représenté, qui est au-dessus du cadre. Et puis ensuite, on voit les ombres, des ombres un peu chatoyantes, dansantes comme ces danseuses. Et là aussi, on se rend compte qu'il y a un réverbère sur la droite du tableau, mais pas représenté par le peintre. Et finalement, le fait de voir toutes ces lumières, ces ombres bouger, sans qu'on puisse en voir la source, c'est aussi ça un peu ce mystère de la nuit, ce vertige de la nuit qui est exprimé ici par Homer.
Alors, elles sont éclairées par cette fameuse pleine lune qu'on devine, mais qui n'est pas représentée, ça vous venez de le dire, Jean-Marie Gallet, mais on se pose la question, pourquoi elles sont seules, ces deux femmes? Pourquoi elles dansent? Est-ce qu'elles s'aiment? Est-ce qu'elles sont amantes?
Alors, toutes les hypothèses sont possibles. C'est aussi la nuit, en fait. C'est-à-dire cette part d'ombre. Et d'ailleurs, il y a un groupe d'hommes qui les observent dans l'ombre. Et on retrouve ça dans plusieurs tableaux de l'exposition, notamment des tableaux fauves, Fondongen ou Chabot, qu'on a un peu plus loin dans l'exposition, où il y a comme ça des sortes de narrations, de récits qui se créent. C'est aussi le propre de Brassailles, par exemple, quand il photographie Paris, d'aller tout d'un coup chercher des histoires. Mais la nuit permet de rendre tout plus flou, y compris les histoires, à chacun de s'inventer des histoires. La nuit permet cette indistinction, ce moment où rien n'est très clair, rien n'est très expliqué. Tout est beaucoup plus mystérieux.
On avance dans la nuit avec vous, Jean-Marie Gallet. Et s'il fallait passer à une autre représentation de la nuit?
On peut aller chez les surréalistes, parce que pour les surréalistes, la nuit est vraiment le domaine de prédilection, le moment de prédilection pour créer aussi, et notamment les déambulations nocturnes, le noctambulisme qui est l'arme artistique des surréalistes qui vont passer toute leur nuit, notamment dans Paris, à errer, à flâner, à suivre quelqu'un, à suivre le parfum d'une femme, à s'arrêter ensuite dans un café, puis à aller dans un parc en pleine nuit. Et ces déambulations nocturnes des surréalistes vont donner naissance à beaucoup d'images. On a dans l'exposition une salle entière qui est conçue comme une courbe qu'on l'on peut suivre et avec les surréalistes avec lesquels on peut déambuler tout au long de cette courbe. Par exemple, Victor Brauner. Victor Brauner est un peintre qui va être totalement fasciné par la nuit. Chez les surréalistes, il y a cette idée de vouloir regarder le monde avec un œil intérieur et un œil extérieur, ce qui renoue avec le romantisme, évidemment. La lune aussi, phare du romantisme, va être réhabilitée par les surréalistes. Et cette idée de l'œil intérieur est évidemment très présente déjà chez Friedrich, par exemple, autre grand peintre de la nuit, mais avant la chronologie de l'exposition. Et Brauner va croiser, pendant ses promenades nocturnes, par exemple un arbre qui marche avec des chimères sur ses branches. Il va discuter avec ses amis nocturnes, les crapauds, et il va croiser des somnambules qui regardent leur destin avec des yeux grands ouverts. C'est une série de dessins qui sont montrés dans l'exposition.
Et on passe maintenant à la modernité, j'allais dire, au néon qui marque aussi une génération d'artistes contemporains.
Absolument, le néon, c'est cette écriture de lumière dans la nuit, tout d'un coup, qui peut faire œuvre à partir d'une certaine époque et qui va être beaucoup utilisée par les artistes. Et dans l'exposition, il y a notamment un grand néon d'un collectif d'artistes qui s'appelle Claire Fontaine. Et ce néon nous dit, dans une salle entièrement noire, c'est la seule pièce, et le néon nous dit « We are with you in the night », nous sommes avec vous dans la nuit. Cette phrase, en fait, est un slogan, une sorte de graffiti qu'on pouvait trouver dans les années 60-70 en Italie, face aux prisons notamment. C'est cette idée qu'il y a une communauté de résistance dans la nuit. La nuit, c'est aussi cette communauté de veilleurs. Tous ceux qui ne dorment pas sont aussi là pour lutter parfois.
La nuit comme refuge, ouais, c'est très...
Absolument, la nuit comme un refuge. Cette ambivalence de la nuit, à la fois c'est un refuge, en même temps c'est quelque chose de dangereux qui nous fait peur. Et ce néon symbolise bien cette ambivalence et cette communauté qui se forme, la communauté des veilleurs.
Alors, bien sûr, c'est tous ces tableaux, ces œuvres d'art, vous pouvez le retrouver à la page du Réveil culturel sur franceculture.fr. Il y a donc cette célébration de la nuit, mais qui ne passe pas forcément par la longue nuit d'hiver. Il y a beaucoup d'été, d'ailleurs, dans cette exposition.
C'est vrai. Il y a beaucoup d'été et j'irai plus loin. Il y a même des nuits qui se détachent totalement
du calendrier.
Du calendrier, de l'atmosphère, puisqu'il y a un étage de l'exposition qui s'enfonce dans l'abstraction. Parce qu'il y a un lien assez fort entre nuit et abstraction. C'est comme si la nuit, quand on observe un paysage, par exemple, il y a une abstraction naturelle des choses qui se produisent pour l'œil. L'œil y voit moins bien, distingue moins les formes, les couleurs et donc doit les simplifier. Mondrian, par exemple, dans sa jeunesse, peint des arbres comme des grandes masses très noires. Il n'y a plus aucun détail. Et plus on s'enfonce dans l'exposition, et notamment dans cette idée d'un vertige cosmique aussi, plus on va croiser des artistes qui essayent d'orchestrer un peu comme un artiste, un créateur, un démiurge, la matière sur la toile et cette substance de la nuit, essayer de la maîtriser, de l'appliquer sur la toile.
Alors la question que vous vous êtes sans doute posée, et à mon avis vous avez trouvé la bonne réponse, mais je vous laisse le soin de nous expliquer comment vous avez travaillé l'éclairage de cette exposition, Jean-Marie Gallet.
Alors ça a été une grande question effectivement, puisque l'idée même de l'éclairage est totalement, fondamentalement liée à ce sujet de la nuit. Et on a travaillé avec le scénographe et l'équipe d'éclairagistes à ce parcours de sensations. On commence dans un noir complet. Peu à peu, seuls les tableaux sont éclairés. On voit presque plus ni nos pieds ni le plafond. On voit que les tableaux comme des taches de lumière dans l'espace.
Et là, on se pose la question, qui est Nyctalope et qui ne l'est pas?
Absolument, on se transforme peu à peu en animal nocturne, en tout cas autant que l'homme puisse l'être. Et puis, il y a des moments où la lumière revient. La lumière revient, par exemple, dans une partie qui s'appelle les obsessions nocturnes, où on va croiser les insomniaques, on va croiser des artistes aussi un peu torturés par la nuit, qui n'arrivent pas, qui veulent utiliser ce moment pour créer parce qu'ils n'arrivent pas à faire autre chose, avec des créations comme celle d'Henri Michaux, par exemple, le prince de la nuit, qui est l'emblème un peu de cet artiste en quête d'inspiration la nuit. Et donc là, la lumière revient. Puis elle s'éteint à nouveau pour rentrer dans ce monde intérieur. Et alors elle revient très puissante dans la partie de l'exposition sur le vertige cosmique, sur ces matières de la nuit. Dès la philosophie antique, par exemple, on définit moins la nuit comme une absence de lumière que comme la présence d'une substance autour de nous dans la nuit. Et donc cette présence de quelque chose est en inverse à l'absence de lumière. On l'a dans l'exposition de manière assez imposante par des tableaux très lumineux, des tableaux aussi qui réfléchissent la lumière. Roy Lichtenstein, qui utilise un papier plastique dans les années 60, qui réfléchit la lumière, ou bien Anna Eva Bergman, peintre franco-norvégienne, qui va dire dans les années 60, il faut arrêter de faire de la peinture avec de la matière terrestre morte, il faut que les rayons cosmiques illuminent l'étoile d'aujourd'hui, et elle peint avec des feuilles de métal.
Pour quelle raison ou à partir de quelle réflexion êtes-vous arrivé à concevoir cette exposition autour de la nuit, peindre la nuit actuellement au centre Pompidou-Metz? Est-ce que nos voisins allemands ont prouvé il y a quelques années qu'avec une exposition qui a marqué les esprits, qu'on pouvait célébrer la nuit et voir la nuit à travers les peintures, qui vous a peut-être donné l'envie d'essayer de revisiter la nuit, mais avec les peintres modernes et contemporains?
Alors, il y a un peu de ça, mais moi, je n'ai pas vu cette exposition qui, effectivement, fait date, une exposition à Munich en 1998. L'exposition, elle est plutôt née d'une expérience de plusieurs années, simplement de visiteurs de musées. Je me suis toujours posé la question, il n'y a à peu près aucun musée dans le monde qui n'ait pas quelques tableaux de nuit dans sa collection, et à toutes les époques. Et quand on regarde un arrière-plan du Moyen-Âge, de la Renaissance, de la nuit, on se rend compte que les peintres vont, pour évoquer cette simplification, cette altération de la perception, aller vers des choses très modernes. Alors c'est évidemment un anachronisme de parler de modernisme pour des artistes du Moyen-Âge ou de la Renaissance, mais tout d'un coup, cette simplification opérée par la nuit m'a donné envie de creuser un peu, d'aller voir ce qu'il pouvait y avoir ensuite au moment de l'abstraction de la modernité qui est le XXe siècle.
Et il y a plus de nocturnes que d'habitude pour cette exposition?
Et oui, car c'est une exposition qu'il faut idéalement, en tout cas selon moi, voir à la nuit couchée, puisqu'il y a certaines œuvres d'ailleurs qui prennent vie la nuit, notamment une énorme peinture devant sur la façade du centre Pompidou-Metz du belge Harold Ancar, peinture de 14 mètres de long et 5 mètres de haut qui, le jour, est à peine visible mais un peu comme un animal qui serait tapis dans l'ombre et elle prend véritablement toute sa puissance en pleine nuit lorsqu'elle est éclairée. Et donc l'exposition ouvre le soir, une fois par mois. Et pendant ces soirées, on a à chaque fois une personnalité qui va venir nous parler de sa nuit, de sa vision, sa définition de la nuit. Ça peut être un philosophe, Michael Fussell, par exemple au mois de novembre. Ce sera ensuite un astrophysicien en janvier, Trinh Xuân Thuan. Ce sera également un danseur. Ce sera un jeune artiste, un peintre, Jérémy Demester, qui crée un ballet pour l'occasion, etc. On aura même l'occasion de dormir au musée pour une nuit couchée où on se fera masser les oreilles par des artistes sonores. C'est une nuit orchestrée par Stéphane Garin et l'ensemble Zéro en mars.
De quoi patienter jusqu'au retour de l'heure d'été, n'est-ce pas, Jean-Marie Gallet?
Absolument, absolument. Mais venez plonger dans la nuit, profitez-en pendant qu'elle est là. Et cette exposition montre aussi que la nuit a des richesses et la nuit est loin d'être un univers menaçant et au contraire, elle est pleine de promesses.
Merci d'être passé ce matin.
Merci à vous.